présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Le dernier hommage public de la France à Jacques Chirac des Invalides à Saint-Sulpice. La classe politique presque unanime a salué la mémoire de l'ancien chef de l'État. Dans ce journal, le reportage de Rosalie Lafarge et l'émotion de l'ancien président américain Bill Clinton. Un mois de prison avec sursis pour l'ex-garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, mis en cause pour avoir transmis un dossier à un député. La Cour de justice de la République vient de rendre son arrêt. Les explications d'Anne Fauquemberg. La sécurité sociale restera en déficit cette année et l'an prochain. Une double raison à cela, la crise des gilets jaunes et une croissance poussive. Nous ferons le point avec Anne-Laure Chouin. Mauvaise nouvelle pour la future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le Parlement européen recale deux commissaires qu'elle avait choisis. Un dossier suivi par Pierre Benazé. Enfin, en Égypte, le pouvoir empêche toute contestation. 10 jours après des manifestations contre le président Sissi, le reportage au Caire de Frédéric Mettezo. Jacques Chirac repose désormais au cimetière du Montparnasse à Paris. L'inhumation de l'ancien président s'est déroulée dans l'intimité de la famille et des proches. L'hommage public a eu lieu ce matin aux Invalides, puis en l'église Saint-Sulpice, en présence de 2000 invités venus du monde entier. Assis au premier rang, 3 anciens présidents français, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. À leur côté, le président russe Vladimir Poutine, le premier ministre hongrois Viktor Orban ou l'ancien président américain Bill Clinton. Et la liste est loin d'être exhaustive. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
La classe politique française était largement représentée pour cet hommage de la nation à Jacques Chirac.
Oui, Jacques Chirac, un homme chaleureux, aussi à l'aise dans les salons de l'Élysée qu'au salon de l'agriculture. Ces mots sont ceux de Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris qui a célébré la cérémonie. Et cet amour des gens, c'est aussi ce que veut retenir le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Chaque fois qu'on parle de lui, il y a cette double dimension, c'est-à-dire l'homme extrêmement chaleureux, mais aussi la dimension d'homme d'État, que vient souligner la présence de très nombreux chefs d'État et de gouvernement. Quand on dit au revoir à un ancien chef de l'État, on doit être unis autour de cela.
Dans cette union, beaucoup de ministres et d'anciens ministres, l'ex-chef du gouvernement Manuel Valls.
C'est un président si français. Donc il y a beaucoup d'émotions et à travers lui, je crois que les Français se reconnaissent. Et c'est ça, au fond, que toutes les manifestations veulent dire et ce moment tout particulièrement.
Touché aussi Ségolène Royal, ancienne ministre de Jacques Chirac.
Je me souviens de sa grande courtoisie et puis ce refus d'entraîner la France dans la guerre. Je crois que les jeunes générations qui ne l'ont pas connu devront retenir cet enseignement du refus d'entraîner la France dans la guerre.
Des jeunes générations et des moins jeunes, bien sûr, qui rendent hommage en nombre depuis sa mort à Jacques Chirac, note le président du Modem François Bayrou.
J'ai été très frappé, moi, par ce besoin des Français de se rassembler, ce besoin de communion.
Et cela doit nous amener à réfléchir, souligne le haut-commissaire aux retraites, chiracien historique Jean-Paul Delevoye.
Nous entendions dans la cathédrale les applaudissements du public. Je crois que maintenant il faut regarder pourquoi le peuple français a raisonné comme cela. Et l'on voit bien que les Françaises et les Français ont besoin d'être aimés, ont besoin d'être reconnus dans un monde qui a tendance quelquefois à humilier. Nous devons être attentifs que quand on met la souffrance dans le cœur d'un homme ou l'humiliation, on y inculte une violence.
Le cercueil de Jacques Chirac a quitté l'église à Saint-Sulpice comme il y est entré sous les applaudissements nourris d'une foule massée sur le parvis.
Rosalie Lafarge, merci. Les États-Unis de Donald Trump n'ont envoyé aucun responsable de haut rang pour saluer la mémoire de Jacques Chirac. En revanche, l'ancien président Bill Clinton avait fait le déplacement à Paris. Les deux hommes ont été au pouvoir en même temps, de 1995 à 2000. Je vous propose d'écouter l'hommage de Bill Clinton à la sortie du palais de l'Élysée.
Il représentait si bien la France. Il était toujours très positif, toujours à défendre les intérêts de la France. Mais en essayant toujours de rassembler les gens et non pas de les exclure. Regardez qui est venu aujourd'hui. Il essayait de rassembler les gens. Ce que je garde en mémoire, c'est qu'on voulait trouver des solutions inclusives pour faire avancer le monde. Je ne blâme pas les gens pour être nationaliste, je suis fier d'être américain. Mais le nationalisme inclusif marche mieux qu'un nationalisme qui exclut dans un monde plein de problèmes complexes qui traversent les frontières. Et nous, c'est ce qu'on essayait de faire. C'est intéressant parce qu'on ne s'entendait pas sur tout politiquement, mais il faisait partie de ceux qui pensaient que la droite et la gauche devaient essayer de s'entendre. Chirac me manquera. Je l'aimais, il va manquer.
Voilà, Bill Clinton tout à l'heure à l'Élysée, il répondait à Bertrand Galichet. À noter que l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, grand ami de Jacques Chirac, était finalement absent ce matin à Paris. Il attendait une invitation officielle de l'Élysée qui n'est jamais venue. Le service du protocole de la présidence française affirme qu'aucune invitation formelle n'a été envoyée aux personnalités étrangères, d'où le malentendu. La Cour de justice de la République vient de condamner l'ancien ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas à un mois de prison avec sursis. Il est reproché à l'ex-garde des Sceaux d'avoir transmis au député Thierry Solaire un dossier sur l'enquête fiscale le concernant. On retrouve à la Cour de justice de la République Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Anne, cette condamnation de Jean-Jacques Urvoas est inférieure aux réquisitions du procureur général François Molins.
Oui, le procureur général François Molins avait requis un an de prison avec sursis et c'est vrai que la peine prononcée est plus faible. L'envoi de la fameuse fiche d'action publique, document couvert par le secret de l'instruction, un document envoyé par Jean-Jacques Urvoas à Thierry Solaire au cœur de ce procès, n'a pas eu de conséquence sur le déroulement des investigations concernant Thierry Solaire, a motivé la Cour. De plus, ni l'instruction préparatoire, ni les débats n'ont permis de connaître l'objectif réellement poursuivi par l'ex-garde des Sceaux lors de cet envoi. C'était juste avant les législatives 2017 et les candidats étaient déjà investis dans le Finistère où l'ex-ministre se présentait. En revanche, le président de la Cour, Jean-Baptiste Parlos, a été clair sur le motif intentionnel de cette divulgation. La ligne de défense de l'ex-garde des Sceaux n'a donc pas tenu, ligne qui consistait à dire qu'il ignorait le caractère secret des informations contenues dans la fiche d'action publique. Le président a rappelé le juriste expérimenté qu'a toujours été Jean-Jacques Urvoas, signataire également d'une circulaire en 2016 sur les remontées d'informations aux ministres. Quant à l'absence de texte qui dirait qu'un ministre de la Justice est soumis au secret professionnel, il n'empêche pas l'article 226-13 du Code pénal sur le secret professionnel de s'appliquer. Cet article, en effet, n'établit pas la liste des professions concernées. Donc, Jean-Jacques Urvoas s'était bien soumis à ce secret professionnel. Au prononcé de cet arrêt, justement, l'ex-garde des Sceaux est sorti complètement abattu. Quant à son avocat, il n'a fait aucun commentaire. Notez Stanislas que seul un recours en cassation est désormais possible pour l'ex-garde des Sceaux.
Anne Fauquemberg en direct de la Cour de justice de la République. Merci. Le retour à l'équilibre des comptes de la Sécu attendra. La crise des gilets jaunes et une croissance poussive ont eu raison de l'objectif initial du gouvernement. La fin cette année d'un déficit vieux de 18 ans. Selon le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le trou atteindra les 5,4 milliards d'euros en 2019 et 5,1 milliards en 2020. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir.
C'est dans ce contexte déficitaire que le gouvernement va devoir financer un certain nombre de mesures promises par Emmanuel Macron.
Oui, notamment ce pacte de refondation pour les urgences qu'Agnès Buzyn a prévu de financer à hauteur de 750 millions d'euros sur 3 ans. Le plan psychiatrie censé être abondé par 40 millions d'euros et le chantier de la dépendance qui, selon le président de la République lui-même, devrait peser plusieurs milliards d'euros. Or, dans ce PLFSS présenté ce matin par les conseillers de Bercy et du ministère de la Santé, rien n'est très clairement fléché. Les dépenses prévues pour soulager les services d'urgence, par exemple, seront financées par l'annulation ou le retardement d'investissements prévus dans les budgets précédents, sans plus de précision. 500 millions d'euros iront à la dépendance, une goutte d'eau pour les associations concernées, car l'objectif de ce budget 2020 reste celui d'un contrôle des dépenses. Et pour Gérard Cornillo, économiste à l'OFCE et spécialiste des politiques sociales, il est devenu illisible ce budget, essentiellement parce qu'on demande désormais à la Sécurité sociale d'assumer la charge du déficit imposé par le gouvernement via les mesures gilets jaunes. Gérard Cornillo.
C'est un recul extraordinaire par rapport aux évolutions antérieures qui visaient justement à permettre une analyse structurelle de la dépense publique en isolant de manière très claire les différentes cotisations sociales qui devaient être affectées au financement de l'assurance maladie d'une part, donc typiquement c'était la CSG, avec tous les dérapages possibles sur des débats qui vont tourner en rond autour de l'excès de dépenses, alors même qu'on voit bien que dans le secteur de la santé, on est plutôt aujourd'hui en insuffisance de financement. financement.
Bref, en supprimant ou diminuant les cotisations qui étaient affectées au budget de la Sécu sans les compenser comme le prévoit pourtant la loi Veil de 1994, on a, selon lui, rendu opaque la façon dont le budget de la Sécu finance les orientations du gouvernement en matière de santé et de protection sociale.
Anne-Laure Chouin, merci. Le nucléaire ne doit pas être un état dans l'état. Bruno Le Maire lance une sérieuse mise en garde à EDF, c'était hier sur l'antenne de RTL. Le ministre de l'économie n'accepte plus les retards de l'EPR. Le nouveau réacteur de Flamanville n'entrera en service, si tout va bien, qu'en 2022. Quant à l'EPR d'Hinkley Point en Angleterre, il accuse déjà un surcoût de plus de 3 milliards d'euros. Et pour Bruno Le Maire, l'ensemble de ces dérives est inacceptable. Bonsoir Anne-Laure Gimet.
Bonsoir.
Comment peut-on expliquer ces déboires d'EDF dans le nucléaire de nouvelle génération?
Alors il y a à chaque fois une raison différente. Pour Hinkley Point, par exemple, EDF évoque des conditions de sol difficiles. À Flamanville, il y a maintenant ces problèmes de soudure. Ce qui est sûr, c'est qu'à part en Chine, où deux réacteurs de type EPR fonctionnent, cette technologie a pour l'instant fait la preuve de son incapacité à tenir les délais et les budgets. Alors ça n'a pas empêché EDF de lancer la semaine dernière deux appels d'offres pour la construction de deux nouveaux réacteurs EPR en France. L'entreprise justifie ce calendrier par la nécessité de préparer l'avenir. Ça va permettre aussi, explique-t-on à Bercy, d'avoir des éléments chiffrés pour prendre une décision. L'État, actionnaire majoritaire, on le rappelle, d'EDF, doit donner ou non son feu vert à de nouveaux EPR. Mais déjà, l'avenir de cette technologie semble sérieusement compromis, selon Yves Marignac, directeur de Wise Paris, expert du nucléaire.
La question d'aller au bout de la construction de l'EPR de Flamanville se pose en réalité parce que ces fameuses soudures entre les deux parois de l'enceinte du réacteur, très difficile à réparer, est un problème qui va prendre des années à résoudre sans certitude absolue d'arriver à retrouver la qualité nécessaire. Donc c'est un vrai risque aujourd'hui pour EDF de poursuivre dans cette voie et que même la construction d'EPR modifié sous le terme de nouveau modèle et aujourd'hui fortement remis en cause.
Alors l'État attend de son côté pour la fin du mois les conclusions de l'audit qu'il a lancé sur la filière nucléaire dans son ensemble afin de comprendre pourquoi il y a une telle accumulation de problèmes et ces conclusions pourront avoir des conséquences à tous les étages, a déjà prévenu Bruno Le Maire.
Anne-Laure Jumet, merci. EDF a précisé aujourd'hui le calendrier de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, la plus vieille de France. Le réacteur numéro 1 s'arrêtera le 22 février prochain et le numéro 2 le 30 juin 2020. XL Airways a suspendu tous ses vols aujourd'hui. La compagnie est en redressement judiciaire et c'est mercredi que la justice se prononcera sur son avenir. Reprise de l'activité ou liquidation pure et simple. XL Airways emploie 570 collaborateurs et a transporté l'an dernier 730 000 passagers. À Rouen, les cours ont repris ce matin dans les établissements scolaires situés à proximité de l'usine Lubrizol, ravagée par un incendie la semaine dernière. Mais selon le SNES FSU, des enseignants ont exercé leur droit de retrait dans trois collèges. Ces professeurs disent avoir été incommodés par les odeurs persistantes. Par ailleurs, la direction de Lubrizol affirme ce soir que l'origine du feu serait extérieure à l'usine, selon des images de vidéosurveillance. C'est un revers pour la future présidente de la Commission européenne. Le Parlement européen a rejeté aujourd'hui les candidatures de deux commissaires pressentis par Ursula von der Leyen, celle de la social-démocrate roumaine Rovana Plumb et celle du conservateur hongrois Laszlo Troxani. Deux personnalités mises en cause pour des conflits d'intérêts. On retrouve à Bruxelles Pierre Benazé, bonsoir.
Bonsoir.
Pierre, ces deux commissaires ont été jugés inaptes à exercer leurs fonctions.
Effectivement, et le président du Parlement européen, David Sassoli, en a désormais officiellement informé la future présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Laszlo Troxani et Rovana Plumb étaient sur la sellette depuis la semaine dernière. Déjà, il s'agissait pour le Hongrois de ses liens avec son ancien cabinet d'avocats et pour la Roumaine de deux prêts suspects. Une majorité des députés européens membres de la Commission des affaires juridiques ont donc voté pour invalider leur candidature. Il n'y aura pas pour eux, a priori, d'audition de confirmation puisque la Commission parlementaire était convoquée pour autoriser ou non ces auditions. Ursula von der Leyen doit donc en urgence se replonger dans le casse-tête de la composition de son collège de commissaires. Elle doit recontacter Bucarest et Budapest pour de nouveaux candidats. Il faudra peut-être même qu'elle échange des portefeuilles alors même que les auditions de confirmation ont déjà commencé cet après-midi.
Alors justement, Pierre, est-ce que l'intransigeance du Parlement européen peut menacer la candidature de la Française Sylvie Goulard, mise en cause dans deux dossiers ?
Eh bien, par rebond, c'est possible, non pas à cause des fourches caudines de la commission des affaires juridiques, mais parce que Sylvie Goulard va maintenant se retrouver, a priori, toute seule sous le feu des projecteurs. C'est la seule candidature qui poserait problème, à part l'intitulé de la protection du mode de vie des Européens. Mais là, c'est pas ad personam pour un autre candidat. Il y a d'abord que la Hongrie accuse peut-être le Parlement européen d'avoir fait un procès politique à la Szolnok-Trocsány, mais les deux capitales ont déjà affirmé depuis longtemps avoir des remplaçants disponibles. On a même un nom pour la Hongrie, le diplomate Olivier Vareille. Et ensuite, les nuages qui s'amoncelaient sur la tête de deux autres candidats se sont dissipés depuis la semaine dernière. L'Office européen de lutte antifraude, Olaf, a en effet décidé de clore sans sanction son enquête sur les frais de voyage du candidat polonais, Janusz Wojciechowski. Et de son côté, la justice belge a classé sans suite la plainte pour corruption qui visait Didier Reynders.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles, merci. La crise migratoire sera un enjeu majeur pour Ursula von der Leyen. En Grèce, la situation est particulièrement dramatique sur l'île de Lesbos. Un incendie dans le camp de migrants de Moria a fait hier un mort et 17 blessés. Le drame a provoqué des émeutes dans ce camp surpeuplé qui abrite plus de 12 000 personnes. Cécile de Kervas-Doué, les ONG, les représentants de l'ONU, exigent du gouvernement grec des mesures d'urgence.
Depuis juillet dernier, près de 11 000 réfugiés sont arrivés à Lesbos, du jamais vu depuis 4 ans. 200 personnes par jour traversent en ce moment depuis la Turquie où 4 millions de réfugiés sont bloqués. Pour endiguer cet afflux, le nouveau gouvernement grec, aidé du Haut Commissariat de l'ONU et des moyens financiers de l'Union européenne, tente de transférer ces personnes vers des camps de transit sur le continent. Mais ça ne va pas assez vite, s'inquiète Astrid Castelin, chef du bureau du HCR de l'ONU à Lesbos.
L'urgence, c'est qu'il faut en effet diminuer le nombre de personnes sur les îles. Tous ceux qui sont autorisés à voyager, il est important qu'ils soient transférés au continent. Parce que surtout, il y a à peu près 8000 personnes qui logent sous tente. On s'approche de l'hiver et donc les conditions pourraient devenir encore plus critiques une fois qu'il va commencer à pleuvoir et faire froid. Et il faut dire aussi que la population est composée de 43% d'enfants. On demande aussi plus de solidarité de la part des États membres de l'Union européenne à travers des actions concrètes comme rétablir la relocalisation en commençant par les mineurs non accompagnés.
Mais ces mesures de relocalisation, l'Union européenne les a suspendues depuis 2017. Alors dans le camp de Moria, près de 1000 enfants non accompagnés vivent dans des conditions de plus en plus précaires.
Cécile de Kervas-Doué, merci. Le nouveau gouvernement grec vient d'annoncer qu'il comptait renvoyer en Turquie quelques 10 000 migrants d'ici la fin 2020. En Égypte, une chape de plomb s'est abattue sur les opposants au président Sissi. Ils n'ont pas pu manifester vendredi, contrairement à la semaine précédente. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées pour dénoncer les chantiers luxueux du maréchal président. Depuis, le pouvoir a renforcé son emprise sur la population. Il tient à la fois la rue, les réseaux sociaux, les médias et l'économie. Le reportage de Frédéric Mettezo, notre envoyé spécial au Caire.
La place Tahrir a retrouvé son visage habituel. Les voitures roulent, les gens marchent, le musée du Caire attend ses visiteurs. Mais vendredi, le haut lieu de la contestation de 2011 était inaccessible, cerné de barrières, de véhicules et d'hommes en uniforme, et de gros bras en civil, patibulaires, la poche du pantalon ostensiblement déformée par un pistolet ou une matraque. Avec près de 2000 arrestations depuis 10 jours, une chape a recouvert l'Égypte, constate Shaïma Sami, chargée de mission pour une ONG de défense des droits de l'homme.
À cause des nouvelles lois, le simple fait d'aller sur les réseaux sociaux et sur Internet, un simple message, un simple tweet, ça peut vous envoyer en prison.
Vendredi, la seule manifestation autorisée était en faveur du régime et bien sûr, elle a fait la une des journaux télévisés. Ce manifestant explique qu'avec Sissi, son pays ne ressemblera jamais à la Libye, à la Syrie ou au Yémen. Mais la militante des droits de l'homme, Shaïma Sami, connaît ce discours par cœur.
Bien sûr qu'on a peur du terrorisme. Mais les politiques actuelles du président, sont-elles efficaces ou non? Les statistiques nous donnent la réponse. La seule réponse sécuritaire ne suffit pas. On a aussi besoin de liberté d'expression, de culture, d'éducation pour combattre le terrorisme à la racine.
Une personne sur trois vit en situation de grande pauvreté selon les statistiques officielles et cela n'arrête pas d'augmenter comme les prix. La vie devient difficile même pour la classe moyenne favorisée. Georges, 38 ans, regarde au loin.
Personnellement, je n'ai plus d'espoir, mais je dois espérer pour mes filles. Posez la question à n'importe qui, voulez-vous partir à l'étranger? Tout le monde vous dira oui. Et moi, j'aimerais vivre ailleurs avec mes filles.
Sisi et son armée tiennent une partie de l'économie, le tourisme, les travaux publics. Son projet de nouvelle capitale est une bénédiction pour des milliers d'employés du BTP. Le Raïs mobilise aussi les artistes. Amaizen Faouda, ils veulent le chaos, chante Mohamed Ramadan. L'une des plus grandes stars du pays dénigre tous ceux qui voudraient critiquer le pouvoir.
Voilà pour ce reportage de Frédéric Mettezo, notre envoyé spécial en Égypte. Retour en France pour le temps demain. Instable et orageux, une nouvelle perturbation va traverser le pays d'ouest en est. Ces orages gagneront le sud-ouest et les Alpes l'après-midi. Température minimale de 10 à 20 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales iront de 17 à 28 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.